On a fait le tour d'histoires horribles avant la pause impliquant des parents indignes et des pauvres enfants. 16h43, puis il y a des gens qui nous rappellent l'histoire qui était dans les médias en fin de semaine. Un enfant de 3 ans qui a ingurgité de la drogue liquide à Vanier puis qui s'est retrouvé à l'hôpital. On aurait pu la mettre dans la liste et malheureusement, sur une semaine donnée dans n'importe quelle année, la liste devient rapidement longue. Puis je veux saluer un auditeur qui nous a écrit, puis tu sais, tout le monde a droit à une deuxième chance, puis tout le monde a ses épreuves, tout le monde a ses étapes. Une personne qui nous écrit dit « Je me sens super mal parce que j'ai perdu mon permis, puis j'en ai une machine, moi, dans mon auto. Mais si bol, jamais, au grand jamais, je ferais ça à mes enfants. J'ai été cave avec l'alcool, mais quand t'as une claque d'en face, tu te reprends en main. Je me sens pas si pire, finalement. » Faisait référence à l'histoire qu'on s'est racontée avant la pause d'un père indigne qui demandait à ses enfants de souffler dans son éthylomètre pour débarrer son char. Un king des kings, mettons, Hey, on va changer un peu de sujet, puis ça va faire du bien. Désolé, une fois de temps en temps, il faut se boucher le nez puis plonger dans la réalité. Je comprends qu'un lundi nuageux, c'est encore plus rough que d'habitude, là, mais j'avais le goût de partager les histoires, là, parce que moi, ça m'a chaviré le cœur un peu. Puis j'imagine que vous autres aussi. 418-971-1021, s'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs. D'ailleurs, Audrey?
Capitale, direction Est, auteur Robert Bourassa. C'est pas mal difficile en ce moment. Robert Bourassa, direction Nord, ça se passe entre Wilfrid Hamel et la Capitale. Il y a des problèmes si vous tentez d'aller rejoindre les ponts direction Sud. À partir d'Henri IV, là, ça commence à ralentir à versant Nord jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Pour ce qui est du Plessis Sud, c'est à partir de chemin Sainte-Foy. Non, c'est pas vrai. Quatre Bourgeois, plutôt, que ça ralentit jusqu'à l'entrée des ponts. Il y a des problèmes également direction Nord, là, je vous dirais, entre Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle dans le coin de Val-Bélair sur Henri IV Nord. Assez problématique. Pour ce qui est de la rive Sud, ça va quand même bien. Il semble y avoir un incident si vous êtes sur la route du président Kennedy à la hauteur de la 20. Pour le reste, ça roule. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021, un texto.
Nous autres aussi, ça roule. Sam Tremblay-Michaud, notre chroniqueur auto qui est en studio. Salut Sam.
Allô.
Masquiva.
Très, très bien.
Hey, t'as des choses à nous jaser dans l'actualité automobile.
Oui.
Puis, on va commencer. C'est drôle, hein, parce que j'ai hâte de voir ce que tu vas nous raconter. Essentiellement, dans le monde de l'auto, c'est toujours de regarder en avant puis de trouver la voiture du futur.
Oui.
Puis là, toi, ce que tu observes, c'est qu'il y a du monde qui commence à faire l'inverse.
Complètement. Et on commence à le vivre, là, vraiment. Dans les constructeurs automobiles, on voit des tendances. On voit que cette incertitude-là aussi avec les tarifs.
Va-tu falloir recommencer à crinquer nos chars sur le hood en avant pour les partir?
Je pense pas. Mais je pense qu'en émissions polluantes, par contre, on va reculer un peu.
Ouais.
On va sûrement commencer à avoir de plus en plus de retours de certains moteurs à gaz. Je vous ai parlé déjà qu'il y a des constructeurs qui avaient annoncé en 2030, nous, on va être Greenpeace. Finalement, c'est zéro le cas. Là.
Okay.
On revient avec des moteurs thermiques. Volkswagen avait annoncé ça. Porsche fait la même chose aussi. Je pourrais quasiment tous les nommer.
La raison principale, c'est quoi? C'est que le monde n'est pas prêt.
La rentabilité encore de ces produits-là, c'est très difficile à vendre. Puis avec toute l'espèce d'incertitude qu'il y a actuellement, pas juste au niveau des tarifs, mais surtout au niveau des réglementations qu'on a autour de ça, on sait que l'administration Trump a déjà mis plusieurs lois de l'EPA en suspens sur les objectifs environnementaux des constructeurs automobiles. Fait que, tu sais, puis je dis constructeurs automobiles, mais c'est juste sur les émissions de CO2 point barre, là, c'est pas juste sur les constructeurs. Et ce recul-là qu'on prend tranquillement sur les émissions, puis qu'on dit « Ah, finalement, cette loi-là, à jump, celle-là aussi », bien, ça fait en sorte que les constructeurs, là, moi, je parle de mon domaine, vous comprendrez, mais ça vient aussi dans toutes les autres industries, là, mais les constructeurs automobiles peuvent se dire « Bien, écoute, j'ai une technologie qui date, pourquoi pas la garder? Les gens l'aimaient, l'achetaient. » Oui, elle est plus polluante, elle ne viendra pas aider la mission première de l'environnement, mais elle va se vendre encore parce que les gens ne sont pas encore prêts non plus à faire le saut à 100% électrique.
Puis les tarifs amènent des craintes économiques qui font en sorte qu'on va jouer safe dans 100%. Les prochaines années.
100%. Okay. Ça s'appelle avoir une lecture parfaite, Denis. Et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a des constructeurs comme par exemple Ram, j'étais avec eux la semaine passée, j'allais essayer les nouveaux camions 2500 HD, tout ce qui n'est pas environnemental. Mais
yes, monsieur!
J'ai remarqué une fifth wheel, j'avais une grosse fifth wheel. La première fois, je faisais ça avec un gros Ram deux essieux, là, les gros camions noirs épeurants. J'avais une fifth wheel tellement longue que je voyais pas en arrière. Là, j'étais comme, my God, je suis rendu là. J'ai du poil dans la face plus que jamais.
Puis tu sais, en même temps, dis-moi si c'est un préjugé, mais j'ai l'impression que la clientèle la plus difficile à séduire au niveau environnemental, électrique et ainsi de suite, c'est ceux qui achètent des gros pick-up, là.
Absolument. Moi, je ne vais jamais m'ostiner avec ça.
C'est pas mal. C'est un fait de la vie.
Parle à un gars de Jeep qui aime les 4x4, mettons, ouais, là, qui aime un vrai Jeep. Là, je peux parler d'un vrai système 4x4 classique, manuel et compagnie. Dis-lui que dans pas long, ça va être un camion électrique avec lequel il va aller se promener dans le bois. Là, ça se peut qu'il rit. Là,
tu peux en faire pour faire beau, mais je pense qu'ils sont conscients qu'ils vont avoir de la misère à y passer.
Puis Ram avait un bon vieux moteur V8 5.7 litres EMI. Là. On l'appelait EMI parce que j'en ai mis du gaz dedans. C'est un gourmand. C'est un moteur qui était puissant, qui avait une belle sonorité, qui avait une belle popularité. L'année dernière, finalement, il disparaît après 25 ans de carrière avec très peu de changements. Donc, vous comprendrez, un moteur qui était très polluant. Et là, ce moteur-là a été retiré pour mettre une technologie plus récente, 6 cylindres en ligne turbo-compressé. Je vois pas trop les détails, mais là, ce qu'on entend de plus en plus et que j'ai pas réussi à me faire confirmer parce que j'ai demandé au président de Ram, j'ai demandé aux ingénieurs qui ont travaillé sur le moteur et compagnie, si le moteur allait revenir. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que le moteur va revenir. Eux ont jamais dit non. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est « Ah, mais on est à l'écoute des gens ». Fait que prenez pour acquis que cet été, Ram va ramener un V8 dans sa camionnette. Puis là, on refait un gros pas en arrière. Certains amateurs vont me dire « Ouais, mais moi, je suis content, je l'aimais, c'est un moteur fiable qui a fait ses preuves, qui était puissant, qui faisait le travail, qui blablabla, je suis d'accord avec vous. » Un des premiers qui aimait ça, le peser, ce moteur-là, quand tu l'entends, il sonne bien, c'est le fun, tu sais. Mais en termes environnementaux, par contre, c'est vrai qu'on régresse assurément en faisant ça.
Sam, chaque fois que tu viens en studio, tu suscites les questions d'auditeurs, évidemment. Ford Bronco 2025, manuel ou automatique?
Si tu peux l'avoir manuel, go for it, mais il faut juste en trouver un, c'est rien que ça l'affaire. Ils sont plus rares, souvent en commande.
C'est plus cher, les manuels?
Pas nécessairement, mais ce qui va être plus cher, c'est surtout la commande 2. Puis souvent, les manuels sont aussi... Il y a deux grosses options. Soit qu'ils vont être dans les ensembles, les versions les moins dispendieux, donc les plus cheap, ou dans les versions les plus dispendieuses. Donc, il n'y a comme plus d'entre-deux dans le monde de la manuelle. C'est un peu ça qui est plate. Mais si tu peux trouver ce manuel, go for it.
Hey, t'as de la compétition dans le monde de la chronique auto, hein?
Ah oui?
Hey, quand Donald Trump devient chroniqueur auto, là, je l'ai vu faire sa chronique sur les Tesla.
Ah, c'était capoté. Hein?
C'était surréaliste.
C'était capoté. Avec les prix, l'explication de la bonne voiture, c'est incroyable.
Les documentaires. Et les livres qui seront faits sur ce deuxième mandat de Trump. Hey, ça vient juste de commencer, puis déjà, on pourrait remplir des pages et des pages.
C'est un film qu'on a devant nous, là. C'est incroyable.
Qu'est-ce qui se passe avec Tesla, là?
Ça va très mal. Tesla est en chute partout dans le monde. Hein? Il y a vraiment des grosses diminutions, à part à certains endroits, comme les États-Unis. Mais on a des diminutions des ventes qui sont majeures chez Tesla. Une des raisons qui est assez claire là-dedans, bien sûr, le PDG, là, Elon Musk.
Ça a vraiment un impact.
100%.
Là.
Ouais. Comme 100%. Parce que si tu regardes le produit en tant que tel, c'est un bon produit encore. Puis il était bon là, quelques mois, il est encore bon, ce produit-là.
Il n'a pas changé. Il faut que quelque chose aille changer autour.
C'est 100% ça. Ouais. Il y a beaucoup de manifestations autour de la marque actuellement. Il y a aussi dans cette corrélation-là la fin des subventions gouvernementales qui est arrivée en janvier. Puis d'ailleurs, Tesla a profité fortement de ces fameuses subventions gouvernementales-là. Là.
Ben écoute, on voyait ce véhicule-là devenir l'avenir environnemental, écologique et ainsi de suite. Mais là, tu vois Elon Musk faire ses singeries puis ses saluts nazis à côté de Donald Trump, c'est comme si le boss est complètement à l'envers du public que tu essayais de séduire. C'est sûr que la personne qui s'est acheté une Tesla pour sauver la planète regarde Elon Musk aller, puis là, il est prêt à la vendre. Et ironiquement, il y a peut-être des propriétaires de gros pick-up dans le sud des États-Unis qui vont acheter la première Tesla de leur vie exactement pour les mêmes raisons.
C'est comme si un barista me servait un Coke. Ça fit comme pas. Tu es supposé me faire un latte avec une feuille, pas un Coke, mettons. C'est un peu le même principe. Ça fit drôlement, cette histoire-là. Puis vraiment, Tesla en paye le prix. Puis là, on voit des tactiques chez Tesla qui sont quand même assez intéressantes à analyser. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est illégal, mais vous savez qu'en janvier,
La présentation à Maison-Blanche, c'était limite. Hein,
c'était limite, mais on en voit plein. Mais au Canada, vous savez qu'au Canada, on a vécu de quoi avec Tesla, il n'y a pas longtemps. En janvier, on avait retiré les subventions de 5 000 $ du programme Roulez vert du gouvernement canadien. Et on avait un délai. Tu sais, quand on en avait parlé ensemble, ça avait été tellement rapidement, finalement. Ouais. 3 jours plus tard, finalement, on avait tout cancellé. On disait que ça allait finir finalement à la fin du mois de mars. On était revenu sur nos paroles. Ça avait brassé à mort. Et ce qu'on avait compris, c'est que les fonds disponibles avaient extrêmement diminué. Et là, ce qu'on a appris de Radio-Canada la semaine dernière, c'est que Tesla, en une fin de semaine, donc le vendredi, le gouvernement fédéral annonçait que les subventions allaient finir vers le mois de mars. Et dans cette fin de semaine-là, Tesla a fait 8600 demandes de subventions pour ses véhicules. Donc, c'est comme si on vendait plus qu'une voiture à chaque 12 minutes ou quelque chose du genre. C'était ridicule. Le calcul ne faisait aucun sens. Et là, ben, on s'est commencé à se poser beaucoup de questions parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plein de concessionnaires automobiles à travers le Canada et au Québec principalement, parce qu'ici, on en a vendu beaucoup des voitures électriques, qui faisaient des demandes aussi de 5000 $, mais qu'eux se faisaient dire par le fédéral, ben non, il n'y a plus d'argent. Ça s'est fait vider par quelqu'un, et ce quelqu'un-là, c'est Tesla.
Une des suppositions qui circulait, c'était que Tesla fait beaucoup d'argent, fait qu'il avait juste pas pris le temps de remplir les demandes sur les ventes des derniers mois, mettons, puis quand ils ont vu qu'on arrivait à... Là, ils ont tout rempli d'une shot, puis c'est ce qui explique. C'est-tu quelque chose qui tient la route, selon toi?
J'ai la misère à y croire. Je sais que quand on demandait aux gens d'acheter une voiture, on demandait de mettre le 5000 $ si vous voulez avoir le rabais tout de suite sur la voiture. Sinon, on disait aux gens, ben on mettait pas le 5000, mais faites la demande, puis vous allez l'avoir ensuite. Fait que ça veut pas nécessairement dire que le constructeur avait pris l'avance et avait décidé d'assumer le 5000 $. Et là, dans le modèle d'affaires de Tesla, c'est que Tesla est une entreprise qui n'a pas de concessionnaire. C'est Tesla qui vend directement aux gens. Tandis que là, tu as des concessionnaires, mettons que tu vas dans ton Chevrolet du coin ou peu importe, et que lui t'offrait le 5000 $. Souvent, les concessionnaires, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils le mettaient eux-mêmes dans leur poche, le 5000 $, pour l'enlever de la facture de leur client, ce qui était super gentil de faire. Et après ça, eux, effectivement, comme tu disais si bien, pouvaient se faire rembourser parfois une fois par mois. Il y a des concessionnaires plus consciencieux qui le faisaient aux deux jours, il y en a qui le faisaient à la journée. Mais ceux qui le faisaient une fois par mois, quand en janvier, ils se sont fait dire, finalement, il n'y a plus de limite.
Ils ont perdu pas mal.
Ben, ils ont peut-être mis 40, 50, 60, 100 000 piastres de 5000 $ qui n'ont jamais réussi à se faire rembourser encore aujourd'hui. Puis ça, ben, ça vient se poser la question suivante. Est-ce que réellement Tesla avait 8683 demandes de 5000 $? C'est-tu parce que l'entreprise était paresseuse, comme tu dis, puis ne demandait simplement pas le remboursement de manière assidue? Peut-être. Est-ce que c'est parce que le constructeur qui vend directement au client connaît les numéros de série de fabrication de ses véhicules et est capable de faire des demandes anticipées? Peut-être. Donc là, on vit dans un néant actuellement et c'est à surveiller. Là, ça va faire une grosse bombe si jamais c'est l'option numéro 2 parce qu'on va avoir joué du coude. Là.
Mais tous ceux qui veulent voir du magouillage puis de ce genre de choses-là dans les malversations ou dans les versations de Tesla, ils regardent Elon Musk à tous les jours à côté de Donald Trump puis c'est sûr que ça nourrit un imaginaire. Hein?
T'as pas le choix.
Ben là.
C'est comme complètement associé. T'sais. Puis tant si longtemps, je pense que cette image-là va être forte, même si on laisse le temps passer, il y a quand même une cassure qui s'est faite.
Ouais.
Et tu sais, je parlais justement dernièrement avec le président du club Tesla Québec. Là, on s'était échangé par courriel un peu parce qu'ils ont sorti un collant « J'aime ma Tesla, mais pas Elon ». J'aime mon auto, mais pas le gars. T'sais.
OK. Fait qu'eux autres sont en damage control solide.
Ben, ils n'ont pas tant le choix quelque part. Puis je peux comprendre parce qu'il y a des gens qui étaient très fiers. Puis c'est drôle parce que quand t'achètes une Tesla, tu étais aussi le représentant technologique de la famille. D'un souper, le monde venait voir ton char, t'expliquait pourquoi tu l'avais acheté. Puis les gens étaient fiers. Puis il y a une communauté de gens qui sont très, très fiers de leur Tesla.
C'est comme si on avait sorti dans le temps un autocollant Steve Jobs pue, mais pas mon iPhone.
Et c'est exactement le cas. C'est 100% la même chose. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est difficile de plus en plus. Puis honnêtement, les ventes le prouvent. Tu sais, des fois, on se dit la force d'une chose. C'est pas que le bonhomme. Il y a aussi effectivement la fin des subventions qui ont clairement nuit aux ventes. Ça, c'est clair et net. Partout, c'est le cas. Là. Mais clairement, le bonhomme n'aide pas.
Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, t'as-tu déjà eu à vivre l'achat d'un Citroën?
Jamais.
Jamais?
Jamais, jamais.
Moi, je croyais pas à ça. Mes parents ont eu un Citroën. Puis tout brise.
Ouais.
Tout brise. C'est aux deux mois. Il y a de quoi qui lâche. Puis il y a de quoi qui lâche. Puis tu sais, au début, tu te dis, ouais, ben c'est des choses qui arrivent. Mais maintenant, tu te dis, ben là, tabarnouche, je suis vraiment tombé sur un char qui se déglingue littéralement. Puis tant qu'ils n'ont pas réussi à le passer ou à le domper, ça a été des milliers, des milliers, des milliers de dollars en réparation.
Ouais.
Ça existe, une loi anti-citron, ça?
Ça existe maintenant, mais c'est tannant d'entendre des histoires de même parce que ça arrive. Puis, tu sais, quand t'as le char construit à 4 heures le vendredi, là, c'est des choses de même, des fois, qui peuvent arriver.
C'est pas un mythe.
Moi, je pense pas. Honnêtement, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie.
Ben voilà.
Mais cette loi-là, c'est-tu juste sur des véhicules neufs ou c'est aussi sur des véhicules d'occasion?
C'est une excellente question. C'est surtout les véhicules automobiles que vous allez acheter, point barre. La beauté, c'est que la loi anti-citron va venir vous donner un coup de pouce. Puis, c'est super intéressant. On a un article sur le rpmweb.ca. On fait affaire maintenant avec un avocat spécialisé dans le domaine qui nous fait des articles qui sont vraiment intéressantes. Il faut juste aimer lire, là, parce que c'est pas vidéo, puis c'est pas très sexy, mais c'est très bon. Fait que ça vous tente de lire ça, c'est intéressant. On parle du projet de loi 29 actuellement qui a été adopté le 3 novembre 2023. Et là, on commence à avoir les retours autour de ce projet de loi-là. À vrai dire, depuis le 5 avril 2024, excusez, ça fait déjà un an, en fond, là, on a commencé à avoir une augmentation de la garantie sur les véhicules selon l'état de la voiture. Je vous explique ça rapidement. Là. Mettons que je prends un véhicule d'âge de 2 ans qui a 40 000 km. La loi va me protéger pendant 6 mois et 100 000 km. Ça, c'est ce qu'on avait. Maintenant, depuis le 5 avril 2024, après, maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est que c'est 4 ans, 80 000 km, on va avoir 6 mois, 100 000 km. Donc, quand notre véhicule est plus âgé, on a quand même encore une garantie qui est meilleure. Donc, okay. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a quasiment doublé les garanties sur les véhicules selon leurs âges.
Mais mettons que, genre, j'achète un 2015. OK? J'ai une vieille voiture.
Ouais.
Puis qui est déjà dépassé 100 000, ça s'applique pas ou c'est 100 000 à partir de l'achat?
Ça va se rendre, exemple, sur une. C'est toujours par bloc puis ça marche toujours comme ça. Mais mettons, le plus loin qu'on va se rendre, ça va être par exemple 7 ans. Donc une voiture qui a 7 ans et ou 120 000 km. Si ton char a 7 ans et 200 000 km, il ne fait pas partie de la protection. Si ton auto a 7 ans et a 100 000 km, il fait partie de la protection. Mais dans son cas, à lui, ça va être une protection de 1 mois et de 1 700 km. Donc, on diminue toujours selon la durée de vie du véhicule et le nombre de kilométrages qu'on va avoir. Mais ce que ça donne, cette loi-là, dans le fond, c'est que ça vous protège effectivement sur le véhicule. Puis l'exemple est assez simple. Si, exemple, vous avez acheté un véhicule de 3 ans qui affiche 70 000 km au compteur, tu achètes une voiture qui a 3 ans puis tu es encore en bon état, la durée de la garantie de bon fonctionnement, elle va être de 6 mois ou de 10 000 km. Si dans ton 6 mois et ou 10 000 km, tu as des pépins qui arrivent avec le véhicule en termes de mécanique, il y a des enjeux avec, tu es garanti et les réparations devraient être gratuites sur ton véhicule.
Okay.
Ça, c'est des choses que nous, on s'est doté en tant que société qui font en sorte que quand tu achètes une voiture usagée, tu es un peu plus protégé.
Ouais.
Donc, c'est vrai que quand tu achètes des véhicules qui sont plus récents, même si des fois, ils ne sont plus sur la garantie du fabricant, parce que toutes les voitures neuves vont avoir leur propre garantie à eux aussi, c'est intéressant de savoir qu'il y a encore des protections qui existent. Il y a des jeux là-dedans aussi, il faut faire attention. Tu achètes un char de 4 ans qui fit dans la garantie 6 ans, 10 000 km, mais tu le fouettes tous les jours puis tu le fais sauter.
Pas la même affaire.
Pour pouvoir le prouver aussi toi qui as fait briser ton auto. Fait que ça, faut être conscient que c'est toujours pour réparer des bris raisonnables.
Tu réponds encore au monde par ton Facebook?
Toujours, j'ai pris du retard. Je vais le dire, par contre, j'ai pris du retard. J'étais parti, mais clairement, j'ai pris du retard.
Ben écoute, on va renvoyer les gens qui nous écrivaient au 88 971 1021 vers ta page Facebook, Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile.
Gênez-vous pas.
Thank you!
À bientôt!
Il est 17h pile. On fait une courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Gravel!